Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid. Pruebas de certificación. Comprensión oral. Francés. Certificado de nivel avanzado. Convocatoria de junio de 2009.
Première tâche. Vous allez écouter deux fois un enregistrement. Vous devez choisir l'option correcte pour chaque phrase. Le zéro est un exemple. Attention, lisez d'abord les phrases. Première écoute.
Bienvenue, monsieur Le Clésio.
Merci.
Comment ne pas vous poser la question du Nobel de littérature. Il est décerné aujourd'hui, votre nom circule beaucoup, paraît-il, en Suède. Quel est l'état présent de votre esprit?
Expectative.
Vous y croyez, donc?
Oui, pourquoi pas, c'est un prix littéraire, donc c'est très bien. Quand on est un écrivain, on croit toujours dans les prix littéraires.
Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous approcher un petit peu du micro. Le dernier Français à l'avoir eu, c'était Claude Simon en 1985. Ça remonte à très très longtemps, ça, donc il y a peut-être une chance.
Oui, oui, j'estime que je ne suis pas à la hauteur de Claude Simon. La Route des Flandres, c'est un livre tellement étonnant. Oui, oui, mais bon, laissons faire le jury.
Vous pouvez nous dire ce que ça représente dans la vie d'un écrivain qui travaille, qui écrit depuis 45 ans, un Nobel de littérature?
Comme tout prix littéraire, ça représente du temps. C'est gagner du temps. C'est quelque chose qui vous donne, qui vous fait rebondir, qui vous donne envie de continuer d'écrire.
Et cette envie-là, vous l'avez?
Oui, oui, mais on écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses. C'est une réponse.
Ça vous inscrit peut-être aussi encore plus dans l'histoire de la littérature et l'histoire tout court?
Oui, n'en faisons pas trop, parce que l'histoire, c'est à long terme, nous sommes tous morts. À moyen terme, nous avons des difficultés, donc c'est relatif. Tout ça est relatif.
Alors, vous savez mieux que moi que quand on a le Nobel, il faut écrire un discours. Et le discours est très important. Nous, on les conserve à l'INA depuis toujours. Vous auriez envie d'écrire quoi aujourd'hui, en 2008? Il faudrait écrire sur quoi?
Sur la difficulté que les jeunes ont à se faire publier, par exemple. Ça serait intéressant. Sur la difficulté que quelqu'un qui écrit ou qui pense en créole a pour traduire sa pensée en français puis trouver un éditeur en dehors de son île. Donc toute la relativité du système éditorial. Pourquoi c'est si difficile quand on est loin des grands pays, des pays qui ont de l'argent? Pourquoi c'est si compliqué? Ça devrait être plus simple. Je crois qu'il faudrait supprimer d'abord les taxes sur les livres. Les livres devraient être hors taxes. Ça serait déjà un très bon moyen.
Vous êtes toujours un peu en colère, en fait, hein, Jean-Marie Le Clésio.
Oui, parce que je trouve que c'est un système dans lequel il est très difficile d'être différent. C'est un système dans lequel il est très difficile de parler, de faire entendre sa voix. On doit sans cesse, surtout quand on est très jeune, on doit sans cesse frapper aux portes, se heurter à des murs. Ça devrait être plus facile, il me semble.
On parle de votre roman Ritournelle de la fin, c'est un parcours romanesque que vous écrivez, celui d'une femme. une jeune fille, une petite fille qui devient une jeune femme et une femme est-elle. Nous la découvrons dans les années 30, elle a 10 ans précisément, elle aime beaucoup son grand-oncle qui l'aime aussi passionnément, elle aime d'ailleurs plus son grand-oncle que ses parents, et nous allons suivre cette jeune fille des années 30 à la Libération, découvrir son point de vue sur sa famille, sur l'époque qu'elle traverse, la guerre approche et puis la guerre a lieu, et cette famille va vivre un déclassement social. Est-ce que c'est bon d'écrire avec les yeux d'une jeune fille ?
C'est bien d'écrire des romans parce que quand vous écrivez des romans, vous êtes vous changez de personnalité, vous devenez quelqu'un d'autre, et c'est délicieux de changer totalement de personnalité, d'entrer dans la peau de quelqu'un d'une autre époque, d'un autre sexe, et de s'identifier totalement à cette personne. Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire.
D'autant plus que cette personne, on le découvre, est largement inspirée de quelqu'un que vous avez bien connu, puisque c'est quasiment le portrait de votre mère, est-elle ?
Oui, quasiment, c'est le mot.
Quasiment est important.
Oui, quasiment est important, parce que ma mère était plus âgée qu'est-elle. Et je n'ai pas seulement... Enfin, ma mère était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de modestie et qui avait vécu des grands moments de l'histoire tout en étant, non pas en retrait, mais en étant un simple témoin. Elle n'a jamais participé à l'histoire. Et elle avait un pouvoir de résistance extraordinaire à toutes les fausses idées qui étaient charriées à cette époque difficile entre les années 30 et 40. Et particulièrement, elle avait cette angoisse de la guerre qui approchait, qui, je crois, avait été quelque chose de très difficile à vivre à cette époque-là. Mais il y a une autre personne qui m'a inspiré, c'est Nathalie Sarraute. Elle avait, à quelques années près, le même âge que ma mère. Elles ont habité le même quartier, et j'ai imaginé qu'elles s'étaient même rencontrées à la boulangerie. Et Nathalie Sarraute, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, racontait la vie dans ce 15e arrondissement. Et elle racontait ce que c'était que de vivre dans ce Paris à cette époque-là, quand on était une immigrée russe, qui était le cas de Nathalie Sarraute.
Et d'ailleurs, ça me replonge dans votre roman, parce que la meilleure amie enfant d'Ethel est Xenia, une petite russe. Et vous parlez beaucoup à la fois de l'exil et aussi du problème de l'argent, de la faim et du déclassement. Il est au cœur du livre aussi, ce souci-là, l'argent. Avoir de l'argent, ne plus avoir d'argent.
Oui, c'était sûrement le souci des gens de cette époque, puisque, comme vous le savez, dans les années 30, il y a eu un krach boursier et il y a eu un effondrement de l'immobilier. Les banques ont pressé les citoyens qui avaient des emprunts pour qu'ils remboursent leurs emprunts. Ils ont mis la clé sous la porte. Pendant tout ce temps-là, la guerre se préparait. Il y avait une montée de la guerre et une montée des thèmes qu'on retrouve aujourd'hui. On retrouve exactement les mêmes thèmes. La sécurité, l'emploi. Doit-on fermer les frontières à l'immigration ? Est-ce que les immigrés nous volent notre pain ? Enfin, tout ça, on le retrouve aujourd'hui.
Deuxième écoute.
Bienvenue, monsieur Le Clésiot.
Merci.
Comment ne pas vous poser la question du Nobel de littérature ? Il est décerné aujourd'hui, votre nom circule beaucoup, paraît-il, en Suède. Quel est l'état présent de votre esprit ?
Expectative.
Vous y croyez, donc ?
Oui, pourquoi pas ? C'est un prix littéraire, donc c'est très bien. Quand on est un écrivain, on croit toujours dans les prix littéraires.
Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous approcher un petit peu du micro. Le dernier Français à l'avoir eu, c'était Claude Simon en 1985. Ça remonte à très très longtemps, ça, donc il y a peut-être une chance.
Oui, oui, j'estime que je ne suis pas à la hauteur de Claude Simon. La Route des Flandres, c'est un livre tellement étonnant. Oui, oui, mais bon, laissons faire le jury.
Vous pouvez nous dire ce que ça représente dans la vie d'un écrivain qui travaille, qui écrit depuis 45 ans, un Nobel de littérature ?
Comme tout prix littéraire, ça représente du temps, c'est gagner du temps, c'est quelque chose qui vous donne, qui vous fait rebondir, qui vous donne envie de continuer d'écrire.
Et cette envie-là, vous l'avez ?
Oui, oui, mais on écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c'est une réponse.
Ça vous inscrit peut-être aussi encore plus dans l'histoire de la littérature et l'histoire tout court.
Oui, n'en faisons pas trop, parce que l'histoire, c'est à long terme, nous sommes tous morts, à moyen terme, nous avons des difficultés, donc c'est relatif, tout ça est relatif.
Vous savez mieux que moi que quand on a le Nobel, il faut écrire un discours, et le discours est très important, nous on les conserve à l'INA depuis toujours. Vous auriez envie d'écrire quoi aujourd'hui, en 2008? Il faudrait écrire sur quoi?
Sur la difficulté que les jeunes ont à se faire publier, par exemple. Ça serait intéressant. Sur la difficulté que quelqu'un qui écrit ou vin qui pense en créole a pour traduire sa pensée en français, puis trouver un éditeur en dehors de son île. Donc toute la relativité du système éditorial. Pourquoi c'est si difficile quand on est loin des grands pays, des pays qui ont de l'argent? Pourquoi c'est si compliqué? Ça devrait être plus simple. Je crois qu'il faudrait supprimer d'abord les taxes sur les livres. Les livres devraient être hors taxe, ça serait déjà un très bon moyen.
Vous êtes toujours un peu en colère, en fait, hein, Jean-Marie Le Clézio.
Oui, parce que je trouve que c'est un système dans lequel il est très difficile d'être différent. C'est un système dans lequel il est très difficile de parler, de faire entendre sa voix. On doit sans cesse, surtout quand on est très jeune, on doit sans cesse frapper aux portes, se heurter à des murs. Ça devrait être plus facile, il me semble.
On parle de votre roman Ritournelle de la fin, c'est un parcours romanesque que vous écrivez, celui d'une femme, une jeune fille, une petite fille qui devient une jeune femme et une femme, est-elle? Nous la découvrons dans les années 30, elle a 10 ans précisément, elle aime beaucoup son grand-oncle qui l'aime aussi passionnément, elle aime d'ailleurs plus son grand-oncle que ses parents, et nous allons suivre cette jeune fille des années 30 à la Libération, découvrir son point de vue sur sa famille, sur l'époque qu'elle traverse, la guerre approche et puis la guerre a lieu, et cette famille va vivre un déclassement social. Est-ce que c'est bon d'écrire avec les yeux d'une jeune fille?
C'est bien d'écrire des romans parce que quand vous écrivez des romans, vous changez de personnalité, vous devenez quelqu'un d'autre. Et c'est délicieux de changer totalement de personnalité, d'entrer dans la peau de quelqu'un d'une autre époque, d'un autre sexe, et de s'identifier totalement à cette personne. Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire.
D'autant plus que cette personne, on le découvre, est largement inspirée de quelqu'un que vous avez bien connu, puisque c'est quasiment le portrait de votre mère, est-elle?
Oui, quasiment, hein, c'est le mot.
Quasiment est important.
Oui, quasiment est important, parce que ma mère était plus âgée qu'est-elle. Et je n'ai pas seulement... Enfin, ma mère était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de modestie et qui avait vécu des grands moments de l'histoire tout en étant, non pas en retrait, mais en étant un simple témoin. Elle n'a jamais participé à l'histoire. Et elle avait un pouvoir de résistance extraordinaire à toutes les fausses idées qui étaient charriées à cette époque difficile entre les années 30 et 40. Et particulièrement, elle avait cette angoisse de la guerre qui approchait, qui, je crois, avait été quelque chose de très difficile à vivre à cette époque-là. Mais il y a une autre personne qui m'a inspiré, c'est Nathalie Sarraute. Elle avait, à quelques années près, le même âge que ma mère. Elles ont habité le même quartier, et j'ai imaginé qu'elles s'étaient même rencontrées à la boulangerie. Et Nathalie Sarraute, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, racontait la vie dans ce 15e arrondissement. Et elle racontait ce que c'était que de vivre dans ce Paris à cette époque-là, quand on était une immigrée russe, qui était le cas de Nathalie Sarraute.
Et d'ailleurs, ça me replonge dans votre roman, parce que la meilleure amie enfant d'Ethel est Xenia, une petite russe. Et vous parlez beaucoup à la fois de l'exil et aussi du problème de l'argent, de la faim et du déclassement. Il est au cœur du livre aussi, ce souci-là, l'argent. Avoir de l'argent, ne plus avoir d'argent.
Oui, c'était sûrement le souci des gens de cette époque, puisque, comme vous le savez, dans les années 30, il y a eu un krach boursier et il y a eu un effondrement de l'immobilier. Les banques ont pressé Les citoyens qui avaient des emprunts pour qu'ils remboursent leurs emprunts, ils ont mis la clé sous la porte. Pendant tout ce temps-là, la guerre se préparait. Il y avait une montée de la guerre et une montée des thèmes qu'on retrouve aujourd'hui. On retrouve exactement les mêmes thèmes. La sécurité, l'emploi, doit-on fermer les frontières à l'immigration? Est-ce que les immigrés nous volent notre pain? Enfin, tout ça, on le retrouve aujourd'hui.
Fin de la première tâche.